Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste au Midi Olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous. Poulain Raffut, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira sa ruade, son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir l'international argentin Juan Imhoff, l'ailier du Racing 92, 34 ans, est toujours l'un des joueurs les plus efficaces de la planète. On essaiera de découvrir quels sont ses secrets. Enfin, dans la troisième partie, place au débrief façon Poulain Raffut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est toujours à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts? Poulain Raffut, saison 6, épisode 15, c'est parti. Raph, aujourd'hui, on va parler un peu de Coupe d'Europe. Enfin, si on peut encore l'appeler comme ça, puisque le week-end dernier, la compétition a vu débarquer en son sein, évidemment, des franchises sud-africaines.
Oui, Arnaud, à l'heure où les témoignages sur les commotions se multiplient, à l'heure où les gros clubs sont dilapidés de leurs joueurs pour fournir les différentes équipes nationales et reviennent fendus comme des bûches, vivant des saisons à rallonge, mais depuis que le rugby pro existe d'ailleurs, à l'heure où les deux grandes compétitions pointent à l'horizon, le tournoi des 5 destinations pardon, et la Coupe du Monde, la question que je me pose est... Est-ce qu'on a sondé, voire auditionné les joueurs des différents pays concernés pour savoir ce qu'ils pensaient de ce changement de format de la Coupe d'Europe qui n'a plus grand-chose, comme tu le disais Arnaud, d'européenne, cela dit en passant. La fameuse Champions Cup avec l'intégration des clubs sud-africains me fait penser à la philosophie du toujours plus menée par les instances dirigeantes du rugby mondial et notamment de l'EPCR pour rendre, et je les cite, le rugby et l'offre plus attractive. Ils viennent d'ouvrir les portes de l'hémisphère sud et son lot de déplacements toujours plus longs et son lot d'autobus pris dans le museau. Est-ce que les joueurs ont eu le choix? Alors oui, ils sont payés, ils ont des devoirs, mais aussi des droits. Ce sont quand même les acteurs principaux de notre cher sport. Ce sont eux qui donnent de leur corps et de leur cerveau aussi pour que nous puissions nous lever dans les stades et donc pour que les instances remplissent les caisses. C'est le jeu, me direz-vous. Le problème, c'est que cette nouvelle formule rajoute des déplacements plus longs et des emplois du temps, à des emplois du temps pardon, toujours plus saturés et où la récupération ne suffit plus. Et puis, ça n'a plus trop de sens historiquement alors que cette compétition devenait mythique avec son épopée européenne ancrée dans nos six nations. Deux équipes sud-africaines, d'ailleurs, en finale de la Ligue Celt, rebaptisée United Rugby Championship. Merci pour l'accent. Ce championnat regroupait les équipes écossaises, galloises et irlandaises et ça avait de la gueule. Mais il faut innover et toujours plus sans vraiment se soucier du bien-être de nos chers soldats devenus gladiateurs. En parlant de la sorte, on va vite me mettre, bien sûr, dans la case des réacs, des « c'était mieux de mon temps ». Mais il n'en est rien. En vieux con de 42 ans, je trouve, pour plusieurs raisons, que cette nouvelle formule est une absurdité. Les joueurs n'ont pas le choix et ne sont pas sondés par leur club ni par les instances pour apporter un point de vue ou leur aval. Business is business, the show must go on. J'espère qu'un jour, il y aura un syndicat assez fort, comme il y a eu il y a quelques années, pour prendre la parole au nom de la nouvelle génération et que celui-ci s'insurgera sur la car la protection de l'intégrité tant psychologique que physique est une priorité. À la différence des anciennes générations, celle qui arrive est bien plus consciente de notre impact sur l'environnement et bien plus consciente aussi des impacts subis sur le terrain. Car oui, écologiquement aussi, c'est une bêtise sans nom, car au-delà de la fatigue accumulée, ces déplacements polluent un peu plus encore et pas sûr que notre cher ami Julien Pierre valide le projet. Car oui, c'est une absurdité écologique et ça va être compliqué d'aller au Cap ou à Johannesburg pardon, en char à voile pour le coup. Mais ce n'est pas grave, allons toujours plus haut et toujours plus fort. Mais à force de vendre du pain et des jeux, on va se retrouver avec de vrais gladiateurs dont on connaît historiquement l'issue finale et l'issue fatale.
Allez, deuxième partie de Poulain Raffut. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir l'international argentin du Racing, Juan Imhoff, 40 sélections avec les Pumas, 75 points inscrits, recordman des essais inscrits par un joueur du Racing 92 à 34 ans. La passion est toujours intacte, la vitesse aussi. Voilà pourquoi, Raph, tu avais envie de rencontrer et d'en savoir un peu plus sur ce Puma.
Oui, Arnaud, il y a les parcours qui inspirent. Celui de Juan Imhoff figure parmi ceux-là. Comment, à 34 ans, on fait pour être aussi performant? Comment on fait pour avoir toujours cette envie incroyable? Donc, salut, Juan. Donc, merci d'être parmi nous. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que tu nous dises qu'est-ce qui te fait encore courir À 34 ans, moi, je reste très admiratif. Hein. J'ai arrêté ma carrière à 25, donc non, à 28 d'ailleurs au Racing, voilà, pour l'anecdote. Et toi, qu'est-ce qui te fait courir encore à 34 ans ?
Ben, on va dire, je suis obligé de le dire, c'est la peur.
Pourquoi ?
La peur de me faire rattraper.
Ah, mais quand même, ça fait 12 ans que tu cavales et il n'y en a pas beaucoup qui t'ont rattrapé quand même.
Non, je rigole, mais ça, je vais en parler avec plusieurs, c'est lié déjà à assez âgé de ma carrière pour savoir ce qui fessait pour continuer dans la longévité. Donc, moi, je me demandais comment les mecs fessaient quand j'étais plus jeune, parce que moi, j'avais compris que si tu veux marquer vraiment l'histoire de rugby ou d'un club, c'est vraiment sur la long terme. Donc, et je me suis dit depuis très jeune, je fais des efforts, on va dire des vrais efforts que personne ne voit, peut-être d'entraînement, de la bouffe, le sommeil. Et du coup, pour moi, je sais que la vitesse, on dit toujours que c'est le premier truc qu'on perd quand on commence à vieillir. Et du coup, je me bats contre ça. Moi, j'ai une espèce de compétition, de concurrence contre moi-même et contre mes coéquipiers. Donc, j'essaie d'être le plus vite de mon équipe, plus vite que moi, donc chaque semaine. Et ça m'étire un peu vers le haut, ça m'est fait travailler, faire un travail supplémentaire que parfois, on ne se rend pas compte, mais... Une fois, un entraîneur il m'avait dit « Tu veux être rapide ?» Et j'ai dit « Oui, et pourquoi tu passes autant de temps à la muscu ?» Et j'ai dit « Parce que pour être rapide, il faut être fort. »« Si, mais si tu veux être rapide, passe plus de temps sur le terrain à courir. » Donc, quand j'ai compris ça, c'est que c'est vrai, c'est qu'on peut toujours améliorer et que la vitesse, ça se travaille tous les jours. Et que l'âge, c'est qu'un numéro. Et bien sûr, il faut en être conscient que... Il y a des choses qu'on perd avec la vieillesse, mais que franchement, on gagne aussi beaucoup d'expérience et on se connaît très bien. Donc aujourd'hui, je me connais très bien et je sais comment faire pour atteindre mon maximum, mes 35, 36 km à l'heure.
C'est bon. Bon, avant de poursuivre vos échanges, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le portrait de Juan Imhoff façon Poulain Rafut. C'est maintenant.
Oui, Arnaud, les Argentins, je l'ai dit, sont des joueurs à part et ils ont tout pour plaire et pas que la ménagère des moins de 50 ans. Souvenez-vous de Juan Hernandez, El Mago, la classe argentine, Nani Corletto avec cette attitude féline et surtout sa nuquette légendaire et Rodrigo Roncero. Bon, lui, c'était plutôt le gros matou que la panthère, mais je vous l'accorde, mais il se dégage de ces mecs-là, c'est Puma, un truc spécial, une gentillesse et cette capacité de crever sur le terrain pour ses compatriotes et ses frères d'armes. Et bien, Juan, ouais, il est de cette trempe de ces types et fait aussi partie de cette génération des types fidèles. J'en veux pour preuve ces 12 années passées au Racing 92, dont il est le meilleur marqueur encore en activité à ce jour, mais aussi 40 sélections avec l'Argentine. Pour moi, Juan, c'est un titre de champion de France, certes en 2016, et c'est surtout un bon mec. Alors, Juan, je te l'ai dit en off, je suis allé sonder ton compatriote Gonzalo Quesada et voilà ce qu'il me racontait. Il te connaît depuis tout petit car il vit ses premières sélections grâce à ton papa. Tu lui renvoyais les ballons quand ton père était sélectionneur à la fin des années 90. D'ailleurs, il m'a conté une anecdote que tu vas nous raconter aussi de ce match à Perpignan où il te fait jouer à l'arrière et il m'a parlé de ton jeu au pied. Donc, j'aimerais que tu nous expliques ce qui s'est passé là-bas. Mais avant de ça, au-delà des séances vidéo trop longues et trop dures avec lui, tu lui as même proposé d'ailleurs de faire des vidéos en bille à bille, parce que tu en avais ras-le-bol de te faire cintrer devant toute l'équipe. Bref, j'ai appris qu'il t'avait aussi fait découvrir le polo il y a peu, c'est quand même une mode argentine. Il m'a dit aussi que tu étais un acharné de l'entraînement, mais toi-même, tu viens de le dire, même obligé de te virer de la salle de musculation le dimanche. Je suis sur les réseaux sociaux, Juan, je t'ai vu aussi poser avec tes frères. Tu es l'un des moins gaillards quand même, et sur le plan professionnel, comme c'est une vie de famille, quoi, la muscu. Hein. Bref. Gonzalo Quesada, un ami, un vrai, comme on imagine les Argentins, autre eux. Alors, au-delà de ces 10 minutes d'anecdotes sur toi, c'est le ton qu'il a employé pour parler de votre amitié et c'est ce que j'aime, moi, chez vous, les Argentins. C'est cette forme de fraternité. Alors, Juan, pour commencer, moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ton secret à 34 ans ? Tu nous l'as expliqué juste avant, mais tu restes l'un des meilleurs ailiers de Top 14. On dit que tu as la réputation d'être d'une extrême rigueur dans ta préparation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Je vais donner quelques billes quand même. Hein. Franchement, des frangins qui sont affûtés comme des lames, c'est de famille, en fait.
Si, non, mais déjà, merci beaucoup. Mais je crois que tu es une des personnes la plus informée de ma carrière. Mais bon, là, j'ai compris quand tu as touché Gonzalo Quesada, franchement, c'est quelqu'un qui me connaît très bien. Et d'ailleurs, on va rigoler parce que pour avoir la relation que j'ai eue avec Gonzalo, bon, tu t'as raconté pas mal de choses, mais qu'on a dû, c'est quand même se taper la tête contre le mur pour pouvoir avoir une bonne relation. Donc voilà, on va y rentrer dedans après. Mais et après, merci beaucoup pour me mettre dans la poche des meilleurs ailiers de Top 14 où là, je ne crois pas parce que vraiment, ici, c'est un truc qui a de talent, c'est que les équipes, parfois, ils manquent des piliers, ils manquent des deuxièmes lignes, mais des ailiers, il y en a partout. Et ça, et la concurrence, c'est ce qui fait aussi que ça fait un joueur, pour moi, un compétiteur et quelqu'un que vous l'avez dit, bah, toi, tu l'as dit aussi, c'est que je suis un extrême, on va dire, je suis très critique là-dessus, sur moi, et puis très exigeant. Et avoir la concurrence, ça te permet aussi d'être à très haut niveau tout le temps, quoi. Quand tu sais que tu n'as pas une poste assurée, que tous les semaines, tu dois te battre pour y être le week-end, eh ben, je m'y crois à Dundes quand j'avais 14-15 ans quoi, encore. Donc, c'est très important pour moi de pouvoir maintenir parce qu'après les armes, je les ai eues. Heureusement, je remercie ma famille, mon club de formation qui m'ont donné une formation avec ces valeurs-là. Et puis aujourd'hui, pour moi, le professionnalisme, ce n'est qu'un mot parce que moi, je l'étais toujours dans ma tête. Pour moi, ce n'est pas du professionnalisme, c'est de l'excellence. Et quand tu arrives à changer vraiment ces mots et puis que le salaire ça n'est pas d'impact sur vraiment ton idée de rugby, franchement c'est là où je remercie ma formation et ma famille.
Juan, j'aimerais quand même, parce que Raph a tendu une perche, que tu reviennes sur ce fameux jeu au pied à Perpignan. Raconte-nous un peu.
Ben, remets-nous vraiment d'y aller, quoi. Passer. J'essaie de raconter des trucs, mais ça passe pas.
Non, on va revenir que sur ça.
C'est quoi cette histoire?
Non, bah, écoute, Gonçalo Quesada, c'est quelqu'un qui est aussi qui a son côté un peu argentin aussi, donc dans le sens, il est très exigeant. Et il est critique avec lui-même aussi, mais bon. Avec moi, j'arrive en France, je jouais 10 et 15 en Argentine. Jamais joué à l'aile. Je jouais à l'aile juste une saison. Donc, voilà, je croyais que j'avais un peu de talent et tout ça, mais quand j'arrive en France, ce n'était pas pareil. Les jeux au pied, ce n'était pas pareil. L'hiver, n'était pas pareil. Donc, du coup, et Pierre Berbissier, je m'en souviens, à l'époque, on a une petite réunion à midi, il m'a dit, toi, tu dois être en 15. Il m'a dit, toi, tu vas avoir la capacité de pouvoir jouer un peu partout. À l'époque, les celliers, ils ne savaient pas cette liberté de jouer un peu partout. Donc, du coup, Pierre, il voulait que je joue à l'arrière pour pouvoir donner un peu à l'équipe, c'est ce que j'ai donné à l'aile, mais pouvoir un peu le donner partout, dans les petits côtés fermés. Donc, j'ai discuté avec Pierre, je lui ai dit, Pierre, je jouais, moi, si c'est pour jouer, c'est pour être sur le terrain, et pilier droit. Et moi, je m'en fous le poste, mais moi, je veux être sur le terrain. Donc, du coup, j'ai dit, Pierre, mais bien sûr, et tout. Donc, Gonçalo, il dit, ben, pourquoi pas, oui, on va essayer. Donc, match à Perpignan. Je n'avais jamais joué de ma vie à Perpignan. Premier match. Donc, tout le monde me parlait des Perpignan, des Touliagui, des joueurs comme ça. Je me suis dit, bon, OK, voilà, c'est un peu chaud déjà. J'ai commencé la semaine et Gonçalo, il me dit, vas-y, tape le ballon. J'ai tapé. Je vous jure, il n'y en a pas eu trois ballons qui sont allés au même endroit. Mais quand je dis au même endroit, c'est qu'il y en a un qui est parti à gauche, l'autre à droite et l'autre, il est parti derrière. Donc, Gonçalo, il ouvre les yeux et je lui dis, bah, je ne le rassure pas. Et là, il a voulu faire le bon mec. Il me dit, bah, écoute, je vais t'entraîner, je vais t'aider à taper. Et Gonçalo, comme lui, il avait un gros pied, franchement un grand pied, et il a cru que moi j'avais le même talent. Et qu'est-ce qu'il a eu l'idée? Viens, on va s'entraîner. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me fout un bouclier par terre et me dit, vas-y, mets-toi sur le bouclier et tu tapes. T'imagines, je n'arrive pas à taper bien sans le bouclier. T'imagines, sur le bouclier, franchement, je n'avais pas touché la balle. Et je crois 3-4 fois, je n'ai pas touché. Et il m'a dit, mais ouais. Et à un moment, ça ne savait plus quoi me dire. Il m'a dit, t'inquiète pas, ça va aller. Il m'a dit, ça va aller. OK, ça marche. On arrive la semaine, la fin de semaine. Quoi, j'étais un peu inquiet, je ne veux pas vous mentir. On arrive à Perpignan, vendredi. Je vous jure, je n'ai jamais eu autant de vent de ma vie. Le vent, mais l'hôtel, il bouchait. J'entendais des cris.
Parce que c'est l'hôtel qu'il y avait à la plage là, non?
Exactement, voilà,
c'est la vache, ça. Mais là, oui, avec les vitres qui tapent.
Il y avait Pampier Hollandi, tout ça, ils étaient contents. On va à Perpignan, le fromage blanc, qui est, parce qu'apparemment l'hôtel, le fromage blanc était magnifique, la plage et tout. Et j'arrive, les fromages blancs, je n'avais jamais mangé de ma vie. Et j'ai trouvé ça qui n'avait pas de goût au début. Et du coup, fromage blanc, la baguette, je ne mangeais pas du pain, donc c'était pour moi pareil. Et la plage, il fait, c'est froid, le vent, la pluie. J'ai dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, j'arrive à me faire la tête. On arrive le soir, j'étais avec Pampier lundi. Et je lui dis, mais je ne veux pas réussir à dormir. Je suis trop nerveux, je n'en peux plus. Voilà, le vent qu'il a et tout. Il me dit, bah, va demander au doc. J'avais mal au mollet. Et il me dit, tu demandes au doc, tu demandes un anti-inflammatoire, un truc comme ça. Donc, je descends, je vais voir le doc. Je ne sais pas comment je réussis à me faire comprendre. Il me donne deux pilules. Je prends les deux pilules, de l'eau, et je les mets. 30 minutes après, j'essaye de me lever pour y aller pour aller pisser. Et je ne tenais pas debout. J'ai touché les murs, j'étais un peu dans les bases. Et Juanpi, ça relève du lit. Mais qu'est-ce que ça, là ? Il me tient comme ça. J'ai dit, je ne sais pas. Et là, je dis, je ne suis pas le doc qui m'avait donné ça. Il regarde comme ça. Non, mais tu as pris de relaxant, le truc pour dormir. Donc, du coup, je m'endors. Donc, Juanpi me met au lit. Je m'endors. Je passe je réussis à dormir quand même. Je me réveille le lendemain. Et puis, le vent. Mais je vous jure, c'est franchement, c'était des cauchemars. Je me dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va sur le terrain. Échauffement. Et Gonzalo, il m'a regardé comme ça. Poum, il m'a jeté des ballons hauts. Mais juste à l'échauffement, il n'y avait personne. On était tous les deux. Poum, il m'a jeté des ballons hauts. Il m'a regardé comme ça. C'est comme ça de loin. Bien, bien, je l'attrapais. Il me balance une autre. Poum, je le loupe. Et bien, vas-y, tape. Poum, je tape. Poum, les ballons, il se va en tribune directe. Et il me dit, voilà. Tu vois, ça, c'est des matchs que tu penses que tu n'es pas prêt, mais tu es prêt, il me dit comme ça. Et j'ai dit, genre comme ça, il me dit, ah ouais, ok, t'inquiète, ça va aller. Et j'avais trop peur. Et du coup, le match, il démarre. J'ai fait un coup des pieds, mais des merdes, je vous jure, je n'avais plus quoi faire. Bon, à la fin, j'arrivais de faire un très bon match. Je marque un essai, on fait match nul, mais que j'avais fait un très, très bon match. Et voilà, c'est là où elle a commencé ma relation avec Gonzalo. Il y a le retour à l'aéroport et je mettais des pieds sur Juanpi Orlandi. Il me dit, de toute façon, t'as vu, c'est facile au rugby comme ça, c'est un peu le beau. Et là, Gonzalo, il arrive comme ça, il me fait, là, tu parles. Parce que hier, je t'attendais beaucoup moins. Donc, d'un coup, t'as perdu l'humilité. Et je dis, Gonzalo, tu me connais depuis très longtemps. Est-ce qu'un jour, je t'ai humble? Il m'a fait, t'as raison. On s'est serré la main, il m'a dit, j'adore ton attitude. Et voilà, là on a devenu des copains.
Très, très bon. C'est génial.
Est-ce que, on va revenir sur le record de, qui est le recordman justement d'essai, est-ce que ça te fait encore avancer ça justement? Est-ce que, l'année dernière, vous étiez limite, tu n'étais pas sûr de continuer au Racing. Le Racing te refait confiance encore. Est-ce que ce genre de motivation, ces records, ça te fait avancer encore, Juan?
Écoute, d'abord un petit mot sur l'année dernière. C'est que quand on s'est dit on s'est fait confiance, c'est que moi, je n'étais pas prêt à partir de ce club. Je vous l'ai déjà dit à la presse l'année dernière, j'en ai beaucoup parlé de ça, je vais en parler encore. C'est mon club, c'est ma vie. Je joue au rugby pour la passion, pour l'amour. Et de m'avoir joué ailleurs, ça a été c'était compliqué. Et du coup, c'était pas que le Racing m'a fait confiance. D'ailleurs, je remercie le Racing de m'avoir re-signé. Mais c'est pas quelque chose qu'on m'a offert. C'est pas un cadeau. C'est vraiment un truc que je suis allé chercher parce que moi, je crois que les histoires, ils sont un début, un milieu, une fin et la fin. Et je crois que la fin pour moi avec le Racing, c'était pas là. Et voilà, c'est pour ça que je suis allé la chercher avec tout ce que j'avais. Et sur le record, écoute, c'est dur d'en parler aujourd'hui, surtout parce que j'enchaînerai toutes mes CC pour avoir gagné le week-end dernier. Donc, ça, c'est un truc, si ça me bouge, ça me touche parce que c'est mon boulot, en fait. C'est comme un pilier droit qui ne compte pas les mêlées qu'il a gagnées, que les pénalités qu'il y a eu, franchement, c'est pour un ailier, avoir le maximum de C, tu le sais très bien, et c'est quelque chose qui compte. Mais c'est pas, et même si c'est un objectif de marquer tous les week-ends, c'est pas quelque chose, les records, qui va me frustrer ou qui va me faire qui va me tirer vers le bas. Au contraire, comme tu dis, ça me fait avancer, ça me fait y croire. Je sais que je suis un peu spécial là-dessus avec mes coéquipiers. Quand ils me donnent pas la passe, je les fais savoir. Et je pense que ça fait partie de jeu. Mais oui, je ne veux pas vous mentir, c'est quelque chose que je tiens à cœur.
Surtout avec un de tes coéquipiers, qui est un ancien partenaire, qui s'appelle Simon Zebo. Il y a quelque chose, non, aussi à ce niveau-là,
si, on s'est 34 essais. On s'est fout des pièces. Mais de toute façon, je l'ai dit, tous les jours que je le voyais à la muscu ou que je le voyais manger des chocolats, je lui disais, mais c'est là qu'il va faire la différence. J'ai rigolé. J'ai une très bonne relation avec Simon. Et j'ai dit, de toute façon, t'es mort, j'étais fini. Je lui ai dit, moi, il me reste encore 10 ans. Je lui ai dit, c'est comme ça. Et lui, il rigolait. Et il me célébrait comme Ronaldo et moi, je me célébrais comme Messi. Et du coup, à chaque fois qu'on joue la Coupe d'Europe, on s'est fout des pièces. Mais là, ce week-end, ça n'a pas été le cas pour aucun de nous.
Juste pour remettre dans le contexte, Simon Zebo aujourd'hui a inscrit 34 essais en Coupe d'Europe. Et je crois que Juan, t'es à 33. Donc, il va falloir effectivement être un peu plus efficace que le week-end dernier. Très rapidement, Juan, parce qu'on ne va pas en parler longtemps, mais qu'est-ce qui s'est passé contre le Leinster?
On a joué contre une équipe qui était meilleure que nous. Mais pas dans le... Il ne faut pas dire quand on dit c'est une équipe qui sont meilleures que nous. Ce n'est pas que c'est le meilleur au monde, les mecs. C'est quand on dit qu'ils ont été meilleurs que nous, c'est sur le match, sur la prestation qu'ils ont fait, parce que nous, on va faciliter les choses. Donc, c'est-à-dire quand une équipe qui sait très bien à quoi ils jouent, comme le Leinster, qui a pas de, c'est pas spectaculaire, hein, mais c'est très simple, très bien fait. Mais quand tu joues contre une équipe comme le Racing, que ça nous arrive parfois d'être indiscipliné à ces points-là, c'est facile de jouer contre nous, quoi.
Et contre les Harlequins, comment on prépare le match? Alors vous sortez justement du match là, mais comment on prépare ce match là, le week-end prochain?
Cette semaine, c'est différent, c'est compliqué parce que il y a quand même cette réaction que vis-à-vis de tous les joueurs que ça rajoute un 10% de plus d'envie, d'engagement. Donc, je pense que c'est pas une semaine à prendre en compte pour la suite parce que bien sûr qu'il aura une révolte vis-à-vis de chaque joueur. Donc, au moins, je l'espère. Donc, c'est difficile à analyser, quoi.
Yeah. Un mot, Juan, sur la Champions Cup. On a vu qu'Antoine Dupont avait déclaré que c'était plus la Coupe d'Europe pour lui avec l'arrivée des franchises sud-africaines. On aurait bien aimé avoir ton point de vue, du point de vue sudiste, entre guillemets, même si tu es presque franco-argentin, tu restes quand même argentin. Est-ce que tu as un point de vue un peu différent ou est-ce que pour toi, ça dénature un peu la compétition? Est-ce que finalement, il faut juste ne pas changer le nom de cette compétition?
C'est dur. Hein. Je suis d'accord avec Antoine Dupont. Lui, tant que Français et capitaine de l'équipe de France et meilleur joueur au monde, je crois qu'il a raison. Il a sa fierté, son ego aussi de dire que, attends, mais je suis Français, on joue dans les championnats européens, on fait un effort pour l'avoir. Moi, j'ai grandi en regardant de l'Argentine, la Coupe d'Europe et leur Super Rugby. Chacun avait ses championnats. Puis voilà, le monde, ça change, ça évolue. Mais après, il faut savoir que l'histoire, on la touche pas comme ça, on la change pas. C'est très, très dur. Moi, j'avoue qu'avoir ces différences, c'est comme ça, ça change tout. Je pense qu'on va finir par une Coupe de monde de club. Moi, je suis d'accord avec Antoine Dupont. Moi, je pense qu'une Coupe d'Europe, c'est l'Europe. Et pas plus, c'est comme si on mettrait à Toulouse à jouer le Super Rugby, ça ne serait plus le Super Rugby. Exactement, donc je suis d'accord dans le sens que c'est bizarre et que pour être la première, on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, sur les papiers, sur les déplacements et sur les choses, moi je ne suis pas convaincu là-dedans.
Alors au-delà d'être convaincu, moi la question que je me pose, ce que je me disais en préambule dans l'introduction, Juan, est-ce que vous avez été sondé pour ce changement en fait? Est-ce que les joueurs ont été sondés parce que en fait, tu as vu le rugby évoluer, le rugby pro évoluer depuis qu'il y est, ça fait 12 ans qu'il y est maintenant quand même dans le rugby pro, la cadence des matchs, tu as été international aussi, donc tu l'es encore, il y a cette cadence. Est-ce que les joueurs ont été sondés pour faire des déplacements encore plus longs maintenant en Afrique du Sud? Moi je trouve de l'extérieur, en tant que supporter aussi, en tant qu'ancien, déjà à notre époque on se battait contre des calendriers qui étaient de plus en plus gaillards, on rajoute encore ces déplacements. Est-ce que les joueurs sont sondés ou ils sont juste des soldats qui doivent justement s'adapter aux décisions des clubs et aux décisions de l'EPCR? Au bout d'un moment, ça fait beaucoup en fait, non? Il y a la Coupe du Monde qui arrive.
Écoute, c'est un peu polémique cette thématique-là parce que moi, en tant que joueur, c'est pour ça que je m'en parlais avant, de professionnalisme, à salarié, tout ça. Donc, on est à salarié, on est employé par le club aussi. Donc, c'est parfois difficile d'avoir une opinion là-dessus sans se faire critiquer. Pas critiquer, mais ça se faire défoncer derrière. Je suis désolé, mais... Mais sur la vérité, je suis désolé que j'utilise ces mots, mais c'est vrai que parfois, aux joueurs, on les pose pas la question. Jamais. C'est comme on ne pose pas la question, on se joue le 31 ou le 24. Et ça c'est des choses, c'est des décisions qui se sont prises et que nous, on accepte par rapport aux valeurs de rugby. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, un joueur de rugby, n'est pas là pour décider quand est-ce qu'on joue, combien on joue. Les joueurs, il est là pour jouer et pour vraiment jouer, pour se donner à fond. Donc, il faut laisser les joueurs jouer Et la direction, je sais pas, diriger, je dis, là, je sais pas.
Diriger, c'est ça. Exactement.
Voilà. Donc, c'est à chacun son boulot. Moi, j'essaie de m'améliorer mon jeu. Bah, les autres doivent faire leur boulot aussi en prenant conscience de tout ce que tu dis, la quantité de matchs, les déplacements, la santé, les spectacles aussi, les spectateurs, qu'est-ce qu'ils veulent regarder. Ça, c'est à devoir.
Juan, tu l'as évoqué un peu, c'est peut-être les prémices d'une Coupe du Monde des clubs. On en parle de plus en plus dans les prochaines années. J'imagine que tu rêves de la jouer. Ça veut dire que tu vas jouer jusqu'à quel âge, du coup, Juan ?
Ben, je ne sais pas. Dis-moi combien de temps ça va se mettre en place. Et puis après, je te dirai. Parce qu'en fauteuil roulant, ça peut jouer ou pas ?
Nani a failli jouer. Corletto a failli jouer en fauteuil roulant.
Ah ouais, ok, ouais, écoute. Mais non. Écoute, j'essaye de. Le rugby n'est pas un effort très simple, on va dire. Il est juste, mais il n'est pas simple. Donc, j'ai une famille, j'ai des enfants. Et j'essaye de jouer, de pousser au maximum ma carrière parce que c'est là où je me sens 100% Juanimov. C'est les Juanimov que ma femme a connus et les Juanimov que Bastian, mon fils, et Nikita, ils voient tous les jours. Donc, moi, sans le rugby, je ne serais pas le même. Ça, je vous rassure. Ce n'est pas comme certains mecs qui disent, moi, j'arrêterai le rugby, je n'en ai plus rien à savoir. Moi, c'est faire partie d'une équipe, les compromis. Et les valeurs de rugby, c'est quelque chose que je tiens à cœur, que je veux continuer à pousser et à garder tout le long de ma vie. Donc, c'est pour ça quand je suis dit que ça permet que ma famille continue à avoir le vrai Juan. Donc, je ne sais pas combien je vais jouer encore, mais le jour où j'aurai besoin de me motiver pour jouer au rugby, d'écouter une musique pour jouer au rugby ou de voir une vidéo, des highlights ou de prendre un produit, là, je arrêterai.
Très bien, très très bon. Moi, j'aimerais juste te parler un petit peu de ton hygiène de vie. Bon, j'ai parlé de tes frangins, j'ai parlé de la muscu, mais sur le plan familial, est-ce que tu peux nous dire si tu bouffes des graines et si tu es vraiment chiant, un peu comme Diego Dominguez à l'époque, qui faisait chier sa femme et qui pesait tout? Est-ce que tu es un peu comme ça? Sois lucide, hein, dis-nous la vérité. Je sais que tu es lucide sur toi-même.
Je veux dire, la vérité, c'est que je commençais comme ça avec ma femme, elle m'a connu comme ça. Puis après, je commençais à me connaître un peu plus et être un peu, c'est pas moins rigoureux, mais savoir quand et comment le faire. Mais oui, je vais continuer à être très chiant et j'ai ma belle-mère qui habite avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas chier que ma femme. C'est ma belle-mère, mes enfants et tout le monde qui est autour de moi parce que voilà, je suis comme ça. Mais
rassure-nous, ils ne sont pas obligés de manger comme toi quand même.
Ben oui, ils sont obligés, c'est pour ça. Donc à la maison, c'est comme ça. Et c'était vrai parce qu'avec Basti, mon fils, bon, il a goûté le coca en Argentine, donc je me suis énervé. Grave, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai vu après un match à l'Argentine. Il était, mon père, bien sûr, la blague des parents, ils adorent ça. Mon père, vu qu'il y a six enfants, six fils, et que nous, on est tous dans les trois dernières, on est tous vraiment dans l'entraînement, dans l'hygiène de vie et tout ça. Mon père, ce qu'il veut faire, le complètement l'opposé. Donc, il mange du dulce de leche, il boit de coca, il mange vraiment, il a le ventre qui va exploser. On dit qu'attention avec le bouton, parce qu'à tout moment, ça explose, il le prend dans l'œil. Et donc, du coup, mon père, qu'est-ce qu'il fait? Il donne de coca à mon fils. J'arrive comme ça, et je dis, mon fils, il me dit, mais je bois de coca. Et là, je fais ma tête change complètement. Et là, je suis vraiment avec mon père et je lui dis, ben, pourquoi tu fais ça? Ah ben, du coca, c'est pourquoi elle ne va pas boire de coca? Pourquoi elle ne va pas boire de coca? Et je dis, parce que nous, on ne boit pas ça. Et elle dit, non, mais écoute, je lui dis comme ça. Il y avait mon frère qui donnait coca à son fils. Et là, il vient, il demande de coca devant moi. Et Basti, il arrive en même temps. Il dit, il était juste la discussion. Et Basti, il dit, mais moi, je veux de l'eau. Et mon frère, il a dit, tu vois, papa, la différence, c'est que quand tu n'as pas de coca, quand tu n'as pas la maison, que ton père, il ne voit pas, on ne demande pas de coca. Mais par contre, si tu l'offres à un enfant, il va boire. Donc, du coup, c'est un peu mon état d'esprit. C'est que moi, je crois que c'est le mieux pour la santé, pour la famille, pour l'hygiène de vie, c'est de garder un certain rythme d'alimentation. Mais on essaie de le faire. Attends, je ne veux pas dire que je suis un extraterrestre comme en 2013-2014, que je pèsais tout le truc, et que j'ai boubé, et que j'ai noté tout sur une application. Mais je garde certaines choses qui m'aident aujourd'hui à performer et à me sentir bien, quoi.
Oui, tu as mis toutes les chances de ton côté, justement, pour pouvoir être encore là à 30, à 34 ans et de peut-être perdurer jusqu'à l'année prochaine. Et tu me vois arriver, ce sera le mot de la fin.
Il nous faut un scoop.
Oui, on a parlé de Coupe du Monde, donc on a quand même besoin pour conclure cette émission. Est-ce que l'an prochain, tu seras bien en France avec les Pumas ?
Oh, écoute, moi, ben, moi, je suis une roulette, hein, et on va dire une roulette rousse d'émotions. Aujourd'hui, au niveau où je suis, je ne serai pas. Mais je sais ce qu'il faut que je travaille pour y être. Donc, franchement, si tu me parles de l'envie, moi, je veux être là. Et je vais être en finale. Je voudrais être en finale avec l'équipe nationale de la Coupe du Monde. Donc, oui, pour moi, c'est un objectif 100% et que je vais tout donner pour pouvoir y être. Et je vais essayer de performer et d'être très bon au club. C'est la seule façon de y être là-dedans. Donc, ouais, mais après, ça change toutes les semaines. Cette semaine, c'est un peu compliqué pour moi parce que les erreurs, quand tu as une Coupe du Monde en face, les erreurs, tu le vois deux fois, tu le vois trois fois, la vidéo, quatre fois, cinq, au lieu de les s'oublier comme on fait parfois quand on n'y a pas, il n'y a pas de spectacle comme ça là, à venir. Donc, si je me vois, mais ce n'est pas donné.
Juan, tu parles beaucoup de finale de Coupe du Monde. On ne peut pas te lâcher sans t'en parler. Il y a peut-être, dans quelques jours, une finale de Coupe du Monde, celle du football, qui pourrait être France-Argentine. Il faut que tu nous dises un mot, évidemment, sur ce peut-être probable France-Argentine.
Non, mais moi, je remercie, mais bon, je félicite quand même la France pour cette finale qui veut jouer aussi de Coupe du Monde parce qu'ils sont déjà là-dedans.
Ils n'ont pas gagné encore, attention.
Ah, mais c'est pour ça. Nous, on félicite la France quand même. Et nous, on va voir ce qu'on peut faire, les Argentins. Mais je suis. Non, mais la vérité, c'est que je suis 100% fier de l'équipe parce que ça fait longtemps qu'il y a une équipe de foot, ça m'a inspiré autant comme celle-ci de l'équipe nationale. Peut-être que ce n'est pas le meilleur foot qu'on peut voir. Peut-être on ne brille pas autant comme des autres nations. Mais moi, je suis très fier parce qu'ils sont de… Voilà, huevos. Beaucoup de huevos.
Tu es originaire de Rosario en plus, Juan, pardon. Donc, c'est une place forte aussi du football, non ?
Si, exactement. Ouais, très fort. Bon, aujourd'hui, il y en a pas mal en équipe nationale qui sont pas des stars de l'équipe nationale qui viennent de l'Argentine, qui viennent de Rosario, pardon. Et du coup, aussi, c'est une ville qui est 100%, on va dire 100%, on va garder 20% pour le rugby, mais 80% foot, quoi.
Je voulais juste conclure, Juan, j'ai été très ami avec Nani, avec Juan, avec Augustine et tout ça. Et moi, la question que je me pose toujours, et je leur demande à chaque fois hein, d'où vous venez, ils ont tous un petit peu le même discours, mais j'aimerais l'entendre de ta bouche, d'où ça vous vient cette grinta, d'où ça vous vient ce caractère, qu'on l'a vu d'ailleurs avec les Argentins encore là, et on l'a vu sur le terrain avec Messi, avec voilà. Mais vous avez ce caractère à la vie, à la mort, d'où ça vous vient ?
Ouf, et belle question. Mais je pense que comme on ne sait pas d'où on vient, on continue à le transmettre parce qu'on n'analyse pas, quoi. C'est un truc qu'on n'analyse pas. Moi, je n'analyse pas, mais je vois mon fils aujourd'hui et il est énervé. Il voulait faire la course avec tous les gamins pour rentrer à l'école avant. Donc, je me suis dit, mais là, je rentrais, je lui ai dit à ma femme, je l'ai ramené. C'était 8h du matin et mon fils, allez, allez, papa, on doit gagner. Il a 3 ans quand même. On doit arriver avant elle, avant eux, avant lui. Bon, on a couru, on a fait 150 mètres pour arriver au premier à l'école. Donc, et je rentrais, je lui ai dit à ma femme, je pense qu'on a un problème avec Basti. Et là, ma femme m'a dit comme ça, elle dit, oui, il a le même problème que toi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on transmet et que parfois, on ne l'explique pas. Donc, on n'a pas une théorie. C'est un truc qu'on le transmet et que je pense que mon fils et que les gens, ils nous voient. Et moi, je voyais Nani Corletto et Ronald Mendes avoir ces trucs-là. Et puis, ça m'a inspiré. Aujourd'hui, c'est des valeurs très fortes pour nous.
Ouais, et ben, c'était vraiment un très joli mot de la fin, Juan. J'ai beaucoup aimé. On a le même problème avec ton fils qu'avec toi. Finalement, c'est ton épouse qui a le mot de la fin aujourd'hui.
C'est clair.
Ah, oui. Et je trouve ça assez révélateur de ta personnalité. Un grand merci, Juan. Le mot de la fin, quand même, il est pour Raph. Raph, personnellement, je passe un très bon moment. J'imagine que toi aussi.
En fait, Nani Corletto se fout toujours de ma gueule en me disant « Mais t'as des anecdotes à rallonge, Poulain, tu nous fais chier. » En fait, j'ai trouvé encore mieux que moi avec Juan qui nous envoie. Mais c'est génial, tu nous fais voyager, Juan. Et c'est ça qu'on aime dans le podcast, c'est qu'on met des pièces aux mecs et de plus en plus, les mecs se lâchent. Mais j'étais pas inquiet. Connaissant les Argentins, connaissant votre goût et votre caractère, voilà. Et je remercie d'ailleurs Gonzalo Quesada pour m'avoir filé parce qu'il m'a filé 10 minutes. Donc, je t'enverrai, je prendrai ton numéro et je t'enverrai aussi en off. tout ce qu'il m'a dit de toi. Comme ça, tu régleras tes comptes avec lui, mais il nous a envoyé des beaux dossiers.
Gonzalo est dans le même style. Hein. Petit témoignage de journaliste, quand tu fais une interview avec Gonzalo, tu peux poser la première question, partir faire tes courses, revenir, il n'a pas fini la réponse.
Mais hein, écoute, moi, je vais te dire un truc, c'est que mon père est Gonzalo, mon père pichote, et pas Juan Hernandez, parce qu'il ne parle pas beaucoup, mais beaucoup des Argentins, ils m'ont dit, et des Latins surtout, ils m'ont dit, une bonne anecdote, c'est de détails. Et pour des détails, il faut de temps. Donc, quand tu rajoutes de plus de détails, et si tu as une bonne mémoire, là, tu fais vivre le genre. Les mecs, il a envie de t'écouter. Il rentre vraiment dans l'anecdote. Donc, je pense que c'est important de le faire. Même s'il y a des gens qui disent, bon, c'est trop long, il parle trop.
Tu nous as fait voyager à Perpignan et je me voyais à l'hôtel avec toi, avec les trucs qui claquent et tout, et les coups de pied à tuer des petites vieilles dans les tribunes. J'ai vécu un peu la même. Donc, je pense que les auditeurs et les auditrices vont se reconnaître un petit peu dans ces coups de pied à la con, quoi. Ouais.
Exactement. Tout à fait. Hein. Tout à fait raison. Merci.
Merci beaucoup. On va passer, évidemment, tout de suite à la troisième partie de Poulain Rafut. Allez, troisième partie de Poulain Rafut, l'actualité selon Poulain. Raph, on vient de passer un très, très chouette moment avec Juan Imhoff, où on a évidemment évoqué cette nouvelle formule de la Champions Cup avec l'arrivée des franchises sud-africaines. On voit bien que ce sujet est un peu clivant, que les joueurs sont un peu partagés. On l'a vu avec Antoine Dupont, on le voit maintenant avec Juan Imhoff. Ça, c'est ta principale inquiétude, c'est que finalement, les joueurs ne sont pas consultés, même s'il faut quand même laisser sa chance au produit.
Oui, ils ne sont pas consultés et puis ils ont même presque peur en fait de parler de ce qu'ils peuvent ressentir, de ce qu'ils peuvent vivre aussi. On l'a senti avec Juan en disant les joueurs sont sur le terrain, les clubs organisent des événements, le PCR aussi, chacun est à sa place. Comme le disait Antoine Dupont, et on sent qu'il y a une hésitation à parler sans avoir l'impression de passer pour une pleureuse ou de se plaindre. Alors que ce n'est pas de se plaindre en fait que de dire qu'il y a énormément de matchs, qu'il y a beaucoup de matchs, qu'on parle des commotions cérébrales, on parle de toutes ces problématiques et que même à mon époque, il y avait ce tabou de parler justement de cette problématique. Or, les clubs donnent beaucoup de joueurs. Oui, il y a de plus en plus de matchs. Oui, les impacts sont de plus en plus importants et qu'à un moment, il faudra appuyer sur pause et faire un bilan de tout ça. Et si les joueurs ne l'ouvrent pas, the show must go on, mais jusqu'où? Voilà, c'est ma question aujourd'hui par rapport à cette European Cup qui n'a plus rien d'européenne. Voilà.
On en reparlera évidemment dans les semaines à venir dans Poulain Rafut. Tu voulais également revenir sur la longue interview donnée par Paul Alloé-Émile dans les colonnes de Midi Olympique. Paul Alloé-Émile qui avait disparu des terrains il y a plusieurs mois en raison d'une très grave dépression. Il a même été longtemps hospitalisé. Il va retrouver le chemin des terrains le week-end prochain en Challenge Cup. Et c'est un sujet qui te tient à cœur.
Oui, et j'avais un peu discuté avec Thomas Lombard justement, qui ont vraiment protégé leurs joueurs, et j'avais aussi discuté un petit peu avec le président, avec le docteur Ville, sur cette problématique. Il s'y penche de plus en plus, et c'est vrai que je trouve ça hyper courageux. Alors, je viens de dire justement que les joueurs ne prenaient pas trop la parole justement sur ces problématiques, et je trouve ça hyper courageux de la part de Paul Alloé-Émile de prendre la parole sur un sujet qui me tient à cœur, parce que je l'ai traversé à la fois pendant ma carrière, mais j'étais plus dans le déni, que beaucoup la traversent, mais que très peu arrivent à l'identifier et la mettre en mots. Je trouve que l'interview est absolument géniale et je trouve ça hyper courageux parce que ce sont une fois de plus les acteurs principaux qui peuvent vivre des moments de faiblesse, qui peuvent avoir des moments délicats, très durs. Il a quand même pensé justement au pire et il n'est pas arrivé jusque-là. Donc, importance de la prévention et chapeau au Midi Olympique d'avoir mis cette problématique en avant parce que plus on mettra en avant ces problématiques, plus la prévention pourra se faire et plus les joueurs et les joueuses pourront prendre la parole sur ces passages qui, en fait, que tout le monde, que tous et toutes, en fait, on vit à un moment donné de nos vies. Donc, chapeau à Alloé-Émile, chapeau au Stade français, chapeau au Midi Olympique, parce que mettons en avant la part sombre, mettons-la en lumière, parce qu'elle est essentielle pour pouvoir ensuite régler les problèmes que chacun et chacune on traverse. Voilà.
Ouais, une interview à retrouver donc dans les colonnes de Midi Olympique ce lundi. Raph, pour conclure, un petit coup de gueule. Samedi soir, le Castres Olympique a disputé son premier match de Champions Cup de la saison dans un stade quasiment vide et pour cause. Hein. Dans le même temps, se déroulait le quart de finale de la Coupe du Monde de football entre la France et l'Angleterre. Le club du président Revol avait demandé à décaler l'horaire du coup d'envoi afin de permettre à ses supporters de pouvoir vivre les deux événements. Fin de non-recevoir, le PCR a refusé. Ce qui a mis Pierre-Henri Broncan, le manager, dans une colère noire. Il a déclaré « On se fout de la gueule du club et de la ville tout entière ». Et je crois que tu es assez d'accord.
Moi, j'aime le personnage. Puis, on l'avait reçu ici, il n'a pas sa langue dans sa poche. Et je pense qu'il est important d'avoir aussi des hommes de caractère pour prendre la parole aussi au nom des joueurs. Alors, peut-être que c'est aussi le rôle des managers de pouvoir l'ouvrir aussi quand ils ne sont pas d'accord avec leurs mots. On peut les critiquer ou pas, en attendant, c'est dit. Moi, je trouve ça assez délicat, c'est que la réponse de l'EPCR, ça a été « on a tout fait pour en fait, bouger, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas décaler de 2 heures, juste de 2 heures, en fait. » Donc, La question,
il y a peut-être problème avec le diffuseur.
Oui, avec le diffuseur, mais enfin le diffuseur, oui, qu'est-ce qu'il va chercher en fait? Il va chercher de l'audimat aussi quand même. Mais là, sur le coup, tu décales de 2 heures, ça permet au public de venir dans les tribunes. Tu perds pas ton audimat avec la Coupe du Monde, et puis tout le monde est content. Donc je comprends aussi la réaction d'un Castres Olympique, parce que si ça avait été un Toulouse, si ça avait été une grosse écurie comme le Leinster qui l'avait ouvert par rapport à une problématique d'horaire, je pense qu'ils auraient été un petit peu plus écoutés. Donc, je suis tout à fait d'accord. Il est important de le dire. Donc, chapeau à Pierre-Henri Broncan. Et puis, c'est aussi un manque aussi à gagner financièrement pour le club. Et puis, le 16e homme, on sait qu'il est hyper important aussi pour les joueurs. Donc, il avait tout droit de l'ouvrir. La réponse de l'EPCR, elle est pourrie, selon moi. Donc, voilà. Vive le Castres et vive la France. Et je m'arrêterai là.
Et ben, c'est un très joli mot de la fin. Merci, Raph. C'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, et toujours avec la banane Raph.
Ouais, merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes et à tous. Merci encore à Juan et merci à Seb à la réalisation. Et à la semaine prochaine. Salut.